son départ ne laissa point de vide dans la jeune cour. Il y eut une princesse de moins aux cérémonies officielles, et ce fut tout. Pour la nouvelle génération passée au premier plan avec le roi, la grande mademoiselle n'était plus que la vieille mademoiselle, comme l'appelait l'abbé de Choisy. Jeunes amours et plaisirs de 20 ans n'avaient que faire d'elle, ni au surplus de la reine-mère devenue prêcheuse avec l'âge et de ses dévots, groupés sous son égide que Molière scandalisait par son impiété et qui trouvait mauvais qu'un roi eût des maîtresses. La question était de savoir de quel côté se rangerait définitivement le maître. Pour l'instant, Louis XIV penchait très fort vers les amis de la bonne nature et de sa joyeuse liberté. Leur serait-il acquis ? La logique des choses et des idées le conduirait-elle ensuite à secouer la gêne des pratiques religieuses, puis celle des croyances ? À la façon des Hugues de Lyonne, des Bussy-Rabutin, des Guiches, des Roquelaure, des Vardes et de cent autres libertins qui ne voyaient dans la religion qu'une collection de simagrées. Voilà ce qu'on avait le droit de se demander en 1662. Et cela était autrement intéressant que la chronique du Luxembourg ou de Saint-Fargeau. La jeune reine était inquiète. Elle flairait un danger. Mais elle ne savait que gémir et pleurer, sans comprendre que des yeux rouges et un ton grognon ne sont pas ce qu'il faut pour retenir un jeune mari. Elle n'avait même pas la consolation d'être plainte, ne s'étant point fait d'autre ami en France qu'Anne d'Autriche, qui s'efforçait maternellement de lui conserver quelques illusions, à défaut de mieux, sur la mélancolie de sa destinée. Il était pourtant impossible d'être meilleure créature que cette petite reine fraîche et joufflue qui sautait de joie le lendemain de son mariage et racontait ingénument à Madame de Motteville son petit roman. Marie-Thérèse s'était toujours souvenue que sa mère, morte quand elle avait 6 ans, lui répétait qu'elle voulait la voir reine de France. Le bonheur n'était que là. Ou alors, dans un couvent, la petite princesse avait grandi avec cette pensée de la France. Louis XIV avait été le prince charmant de ses rêves d'infante. Quand elle avait su qu'un seigneur français venait en poste la demander de la part de son maître, la chose lui avait paru toute naturelle. Elle avait guetté d'une fenêtre l'arrivée de Monsieur de Gramont. Il était passé très vite, suivi de beaucoup d'autres Français, brodés d'or et d'argent, et couverts de plumes et de rubans de toutes les couleurs. On aurait dit un parterre de fleurs courant la poste, racontait la jeune reine, devenue poète pour la première et la dernière fois de sa vie. Marie-Thérèse avait demandé à son époux la promesse qu'il ne se quitterait jamais, ni jour ni nuit, dans la mesure du possible. Louis XIV promit, tint parole, et ce fut la précaution inutile. D'après Madame de Motteville et Madame de Maintenon, la reine ne sut pas s'y prendre. Sa dévotion était malentendue. Si le roi la demandait, elle refusait de lui sacrifier une oraison. Elle avait aussi une jalousie malentendue. Si le roi ne la demandait pas, elle ne distinguait pas assez dans ses plaintes contre ceux qu'il lui enlevait entre Mademoiselle de la Vallière et le Conseil des ministres. Son humeur était décourageante. Si le roi l'emmenait, elle se plaignait de tout. Si il ne l'emmenait pas, c'était des flots de larmes. Si le dîner n'était pas à son goût, elle était maussade. S'il lui plaisait, elle se tourmentait. « On mangera tout, l'on ne me laissera rien, mais le roi s'en moquait », ajoute mademoiselle, amenée par sa naissance à se trouver souvent parmi ceux qui mangeaient tout. Marie-Thérèse était bonne, généreuse, la vertu même. Elle avait une violente passion pour son mari, et avec tout cela, elle était à fuir. Madame de Maintenon résumait la situation en disant que la reine savait aimer et ne savait pas plaire au rebours du roi qui avait tout pour plaire. Sans être capable d'aimer beaucoup. Presque toutes les femmes lui avaient plu, excepté la sienne. Libertins et débauchés n'avaient pas à compter avec Marie-Thérèse, la reine. N'avait pas l'ombre d'influence sur le roi. Pour des raisons différentes, ce n'était pas non plus monsieur, frère du roi, ni la femme de monsieur, qui leur ferait obstacle. Tout a été dit sur les puissances de séduction de Madame Henriette d'Angleterre, sur ses grâces irrésistibles, sa beauté immatérielle et le charme particulier. Très originale, chez une grande princesse que lui avait valu son enfance, pauvre et humiliée, réduite à vivre en personne privée. Elle avait pris toutes les lumières, toute la civilité et toute l'humanité des conditions ordinaires. Et rien peut-être n'avait contribué davantage à la faire aimer des hommes et adorer des femmes. Ses défauts étaient grands, mais ils ne lui furent pas comptés à cause de ce don de plaire qui était en elle et que les circonstances avaient développé. Madame fut mal sûre et dangereuse impunément. Elle put devenir le centre des basses intrigues de la cour sans perdre, ni seulement risquer, de perdre son empire sur les cœurs. À ce premier bonheur est venu se joindre celui d'avoir Bossuet pour abriter sa mémoire. Henriette d'Angleterre a traversé les siècles, protégée par son oraison funèbre, comme elle avait traversé la vie protégée par cette fascination que la nature met en de certaines femmes, qui ne sont pas toujours les meilleures. Monsieur n'avait pas gagné depuis que nous avons parlé de lui. Il s'était, pour ainsi dire, établi dans le vice, publiquement sans vergogne, et dans le vice immonde. Le mariage n'y avait rien fait.
Le miracle d'enflammer le cœur de ce prince explique discrètement.
Madame de Lafayette
n'était réservée à aucune femme du monde.
Livrée à une race de favoris très exigeante qui ne le laissait point chômer de complications domestiques. Monsieur était devenu décidément un tripoteur, selon le mot expressif de sa mère. Entre madame et lui, la cour était un lieu d'une agitation inconcevable, une sentine de médisance et de calomnie, de petites perfidies et de petites trahisons, de quoi donner la nausée même lorsque cela est raconté par Madame de Lafayette. Je ne sais en vérité si cette dernière a rendu service à sa chère princesse en écrivant son histoire de Madame Henriette. À part les premières pages jusqu'au mariage et la belle scène de la mort, tout à la fin, le reste est un tissu de rien. Si méprisable à tous égards que le livre en tombe des mains. Voilà donc tout ce que l'auteur de La Princesse de Clèves a trouvé à dire d'une personne aussi en vue d'une belle-sœur à qui Louis XIV confiait les secrets de sa politique et qu'il avait failli trop aimer. Dans toute la famille royale, les libertins n'avaient à compter qu'avec la reine-mère, si découragée par son peu de crédit qu'elle parlait de se retirer dans un couvent et avec le roi lui-même, trop fermé pour que l'on pût deviner comment ils prétendaient arranger ensemble le plaisir et la religion. Qu'ils ne se contraindraient pas sur le plaisir, on n'avait pas été long à s'en apercevoir. Ils s'étaient mariés le 9 juin 1660. Un an après, commençait le défilé des maîtresses imposé à la famille royale et à toute la France. Elles et leurs enfants, d'une façon qui rappelle plutôt la polygamie orientale que les mœurs de l'Occident. Louis XIV s'était senti incapable d'être vertueux. Un jour que sa mère profitait des attendrissements d'une réconciliation, ils avaient été quelque temps sans se parler pour lui représenter le scandale de sa liaison avec mademoiselle de la Vallière. Il lui répondit cordialement, avec des larmes de douleur qui partaient du fond de son cœur, où il y avait encore quelques restes de sa piété passée, qu'il connaissait son mal, qu'il en ressentait quelquefois de la peine et de la honte, qu'il avait fait ce qu'il avait pu pour se retenir d'offenser Dieu et pour ne se pas abandonner à ses passions, mais il était contraint de lui avouer qu'elles étaient devenues plus fortes que sa raison, qu'il ne pouvait plus résister à leur violence et qu'il ne se sentait pas même le désir de le faire. Cette conversation avait lieu en juillet 1664. L'automne suivant, le roi, ayant trouvé la reine, sa femme, tout en larmes dans son oratoire, par l'effet d'une trop juste jalousie, il lui fit espérer qu'à 30 ans, il serait un bon mari. Propos plutôt cynique. Non seulement il avait les passions violentes, mais il ne s'était pas découvert de raison sérieuse de se gêner sur le chapitre des femmes. On lit dans ses mémoires qui était écrit en vue du dauphin un passage digne de Lord Chesterfield où il expose à son fils ses idées sur les maîtresses de roi. Avant que de partir pour l'armée, j'envoyais un édit au Parlement. J'érigeais en duché la terre de Vaujours en faveur de mademoiselle de la Vallière et reconnaissais une fille que j'avais eue d'elle, car n'étant pas résolu d'aller à l'année pour y demeurer éloigné de tous les périls, je crus qu'il était juste d'assurer à cet enfant l'honneur de sa naissance et de donner à la mère un établissement convenable à l'affection que j'avais pour elle depuis 6 ans. J'aurais pu sans doute me passer de vous parler de cet attachement, dont l'exemple n'est pas bon à suivre, mais après avoir tiré plusieurs instructions de manquements que j'ai remarquées dans les autres, je n'ai pas voulu vous priver de celles que vous pouviez tirer des miens propres. La première instruction à tirer de ces manquements, c'est qu'il ne faut pas perdre son temps avec les femmes. Que le temps que nous donnons à notre amour ne soit jamais pris au préjudice de nos affaires. La seconde considération, c'est qu'en abandonnant notre cœur, il faut demeurer maître absolu de notre esprit, que nous séparions les tendresses d'amant d'avec les résolutions de souverain, que la beauté qui fait nos plaisirs n'ait jamais la liberté de nous parler de nos affaires, ni des gens qui nous y servent, et que soient ces deux choses absolument séparées. Vous savez ce que je vous ai dit en diverses occasions contre le crédit des favoris, celui d'une maîtresse, est bien plus dangereux. Louis XIV insistait longuement sur l'infirmité d'esprit qui rend les femmes dangereuses. Il les avait étudiées de près et il jugeait ces animaux-là à peu près comme Arnolphe. Elles sont, disaient-ils aux dauphins. Éloquentes dans leurs expressions, pressantes dans leurs prières, opiniâtres dans leurs sentiments, le secret ne peut être chez elles, dans aucune sûreté. Elles agissent toujours par calcul et en conséquence, par adresse et artifice. Quoi qu'il en puisse coûter à un cœur amoureux, un prince ne saurait prendre trop de précautions avec ses maîtresses. Il y va quelquefois de son trône, pauvre lavalière, si désintéressée, si peu intrigante. Quelle douleur si elle avait lu ces pages cruelles. Les conseils que l'on vient de lire sont très politiques et très prudents. Ils n'ont rien à faire avec la morale ou la religion. Les mémoires royaux ajoutent bien quelque part que le prince devait toujours être un parfait modèle de vertu. Et aussi que le devoir du chrétien est de s'abstenir de tous ces commerces illicites qui ne sont presque jamais innocents. C'était le moins que peut dire un père s'adressant officiellement à son fils. Au fond, Louis XIV n'avait pas retiré grand-chose quant à la discipline morale d'une religion dont il connaissait presque uniquement les pratiques. Pendant son enfance, sa mère s'était réservée son éducation religieuse. Elle l'avait emmené dès le bas âge dans les églises où elle-même passait une partie de ses journées et lui avait communiqué ainsi un peu de sa piété étroite et machinale. Louis XIV n'en connut jamais d'autre. Il n'était pas plus savant en catéchisme qu'en grammaire latine et, avec cette circonstance aggravante, qu'il voyait la nécessité de savoir le latin pour lire les dépêches diplomatiques, tandis qu'il ne voyait pas du tout l'utilité de savoir sa religion. Il ne varia jamais là-dessus. Madame de Maintenon elle-même y perdit ses peines. La seconde madame, la palatine, n'en revenait pas. Elle écrivait. Pourvu, croyait-il, qu'il écoutât son confesseur et récitât son pater, tout irait bien et sa dévotion sera parfaite. Avec ces idées, le roi trouva fort mauvais, alors qu'un flot d'adulateurs le défiait à l'envie de rencontrer parmi ses sujets des hommes assez hardis pour blâmer ses mœurs et le lui dire en face. Des prélats se montrèrent sévères, c'était leur métier, mais que des courtisans et même, à ce que l'on racontait, un simple bourgeois de Paris osasse adresser des remontrances à leur souverain, cela ne se pouvait souffrir, sans compter que leurs observations excitaient sa mère contre lui au risque de les brouiller. Ainsi qu'il arriva en effet, ne fût-ce que par politique, Louis XIV était résolu à ne pas tolérer que l'on se mêlât ainsi de ses affaires. Il sentait confusément que tous ces gens-là s'entendaient pour lui faire la leçon. Il devinait une force organisée et considérable derrière cette cabale des dévots qui représentait à la cour l'austérité et que les libertins du Louvre tournaient en ridicule. Cette force organisée, nous la connaissons. Nous l'avons vue à l'œuvre dans un précédent chapitre sous le nom de Compagnie du Saint-Sacrement. Alors qu'elle travaillait avec Vincent de Paul aux grandes entreprises charitables du siècle, le surnom malveillant de cabale des dévots lui avait été donné vers 1658 par les nombreuses personnes qui l'abominaient sans connaître son vrai titre et son organisation, parce qu'elle les troublait dans leur existence. Depuis que nous nous en sommes occupés, La carrière de la société avait continué d'offrir le même mélange de bien et de mal. Tout ce qu'elle avait fait pour soulager les pauvres, les prisonniers, les galériens et autres misérables, pour les protéger contre l'abus et l'arbitraire, pour les relever moralement, avait été au-dessus de tout éloge. De même, ses efforts pour assurer la décence de la rue ou pour combattre dans les hautes classes les deux fléaux du temps, le duel et le jeu. On en saurait dire autant des vues étroites et fanatiques qu'il avait rendues persécutrices et policières de son goût pour l'espionnage et la délation, de sa barbarie à l'égard des hérétiques ou des illuminés. Elle devenait facilement dangereuse et malfaisante, et l'on ne savait alors comment se défendre contre ce pouvoir occulte qui avait des yeux et des mains partout. Mazarin, qu'elle picotait sottement par des lettres anonymes, l'avait recherchée et pourchassée. Elle avait dû se terrer pendant les derniers mois de sa vie. Pendant les derniers mois de sa vie. Après la mort du cardinal, la compagnie s'était remise peu à peu en mouvement. Et il fallait qu'elle eût bien repris confiance pour oser s'attaquer au roi, même en étant sûre de la reine-mère. C'est une époque où elle est très intéressante. La compagnie du Saint-Sacrement est devenue un parti politique, puisqu'elle essaie de s'assurer du roi, et que, si elle y avait réussi, l'histoire du règne n'aurait certainement pas été la même. Livrée à son influence, l'État n'aurait pas attendu la Grande Révolution pour prendre conscience de ses devoirs envers le peuple. L'imprudence de sa conduite envers le roi, ses indiscrétions firent le jeu des libertins. Il ne désespère pas, devant le mécontentement de Louis XIV, de tirer celui-ci à eux, à leur incrédulité, leur indocilité aux croyances religieuses, et en vérité, sans aller jusqu'à regretter leur échec final. On leur sait gré d'avoir un peu secoué cette intelligence routinière. L'esprit de Louis XIV, si remarquable par sa justesse et sa solidité, était le contraire de l'esprit moderne par son absence totale de curiosité, son antipathie pour toutes les nouveautés et la peine qu'il avait à changer de manière de voir sur quoi que ce soit. Le roi aurait eu besoin de faire de mauvaises lectures. Comme il ne lisait jamais, les assauts des libertins lui rendirent le service de mettre un peu de trouble dans ses idées. Ils le dérangèrent dans ses habitudes de pratique mécanique. Olivier d'Ormesson, qui était de la compagnie du Saint-Sacrement, écrivait, après la Pentecôte de 1664,
que le roi n'avait point fait ses dévotions à la fête, et que monsieur, lui ayant demandé s'il les ferait, il lui avait dit que non, mais qu'il ne ferait pas l'hypocrite comme lui, qui allait à confesse parce que la reine-mère le voulait.
La conscience du roi traversait une crise, chacun le sentait. En présence d'un si gros événement, les malheurs de la grande mademoiselle achevaient de perdre leur intérêt, déjà réduit à peu de choses pour la nouvelle génération. L'oubli s'accentuait.